Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Allez dans une réflexion ce matin qui est une réflexion pratique. Nous sommes chrétiens et le Seigneur nous a sauvés, ça nous en avons aucun doute. Mais nous avons été sauvés pour servir, c'est-à-dire que nous sommes détenteurs d'un formidable message, un message de joie, un message de bonheur, un message d'espérance. Et la question est de savoir ce que nous en faisons. Voilà, nous pouvons vivre notre vie tranquille. Notre vie chrétienne tranquille, bon, en pensant de temps en temps aux autres, c'est vrai. Mais je crois que ça va beaucoup plus loin que ça, c'est que Dieu nous a appelés, il nous a établis, il nous a qualifiés. Et chacun d'entre nous, nous avons certainement en propre, eh bien, des particularités qui font que Dieu aimerait bien se servir de nous. Maintenant, il faut être conscient de ce quoi Dieu nous appelle, ce à quoi Dieu nous appelle. Et nous allons lire... Eh bien, un texte, dans, ça va être très bref, hein, il y en aura deux d'ailleurs, dans 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 20, et cela nous donne, eh bien, en quelque sorte, la dignité de cet appel. Oui, parce que nous sommes des vases de terre et nous portons un trésor immense. 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 20, c'est simplement un verset. Alors, je pense qu'on serait certainement tous enthousiasmés si nous en connaissions, eh bien, toute la portée, et on se précipiterait devant le Seigneur pour lui dire, eh bien, Seigneur, sers-toi de moi. Alors, donc, 2 Corinthiens 5, verset 20, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Écoutez, je mets simplement devant vous, sur vos cœurs, cette parole. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur. Vous avez une petite idée de ce que peut représenter, en effet, cette dignité élevée d'être ambassadeur pour un pays. Hein, les ambassadeurs, en France, on en a dans le monde entier. Et autant qu'il y a de pays, il y a un ambassadeur. Il représente la France, il représente le prestige, l'économie de notre pays, sa culture. Et c'est un homme qui, quelque part, eh bien, parle au nom de tous. Voilà, hein, il est le représentant du président de la République, naturellement, hein, de la France dans sa généralité, puis de chacun d'entre nous. Et quand même, chaque citoyen d'un pays est fier de son pays. Alors nous sommes des ambassadeurs. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. Et puis un deuxième texte que nous allons prendre dans 1 Corinthiens. Et ce même Paul qui parle de cette ambassade du royaume des cieux, eh bien, nous donne également quelques conditions et quelques exigences propres à la fonction d'ambassadeur. Et 1 Corinthiens 9, verset 22... Et nous allons lire ce qu'il nous laisse. Alors il dit ceci. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Remarquez cette parole. Je me suis fait tout à tous. Alors il ne s'agit pas de la complaisance béate. Il ne s'agit pas de dire « oui, oui », il s'agit d'être véritablement à son poste et d'être à l'honneur de la fonction qui est la nôtre. Savez-vous comment on appelle un ambassadeur ? Excellence, son excellence. Alors si nous sommes des ambassadeurs, on ne va pas s'appeler « mon excellence », surtout, ne me gênez pas, ne m'embarrassez pas. Mais une chose qui est certaine, c'est que ça élève finalement à la fois la personne et puis sa fonction naturellement. Et ce matin, si vous voulez bien, nous allons explorer, parce que c'est un peu le mot, les façons, les manières, les diverses formes et styles pour parler de Jésus, parce que nous parlons d'un royaume. Nous parlons d'un roi en son royaume. Le royaume, c'est le royaume de Dieu. Le roi, c'est Jésus. Et il n'est pas tant sur la terre, bien que notre fonction, c'est d'être dans une terre étrangère à ce que nous sommes, nous chrétiens. Notre vraie patrie, elle est là-haut. Et nous parlons du royaume de Dieu pour que tous ceux qui entendent parler du royaume de Dieu puissent rentrer dans le royaume des cieux. D'où il y a un roi qui a marché sur cette terre. Et le Seigneur nous a laissé ses ambassadeurs dans un monde qui est le monde que nous connaissons. Nous sommes citoyens de notre pays et puis citoyens du monde si vous voulez, mais nous sommes aussi citoyens des cieux. Puisque déjà, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2. Ceci, ce sont des petits rappels. Et nous voyons qu'il y a différentes façons, différents styles, différentes manières pour atteindre des publics différents. C'est vrai que on n'est pas tous pareils. Il y a des gens auxquels nous pouvons parler et qui sont sensibles et susceptibles d'entendre le message. Il y a des croyants autour de nous de diverses tendances et catégories. Il y a des athées, il y a des philosophes, il y a des gens qui sont complètement et totalement ignorants. Voilà. Et comment pouvons-nous nous comporter, nous, en tant que chrétiens, vis-à-vis de tout cela? Alors, dans la Bible, Parole vivante, c'est une traduction moderne. Moi, j'aime bien un petit peu aller fouiller dans ce qui a peut-être un peu enrichi et ce qui peut enrichir la compréhension des textes. Et c'est Paul qui dit ceci, c'est une traduction moderne. « Je me suis adapté, dit Paul, en tout. » Il y a le mot « adaptation ».« Je me suis adapté en tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens possibles. » Alors le fond ne change pas, on annonce Jésus, on annonce le salut, le pardon, la vie éternelle, le fond ne change pas, il est, eh bien, constant. Par contre, les formes peuvent varier. Les choses d'aujourd'hui sont différentes dans la manière de communiquer, la manière de vivre, la manière de penser, que par exemple il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Même les traductions de la Bible ont évolué. Hein. Si on lit par exemple la version Darby, hein, 1850, vous verrez qu'il y a des mots qu'on ne trouve plus dans le dictionnaire et dans notre langage aujourd'hui. Alors quand on se sert de ça, les gens ils peuvent pas comprendre. Hein. Et aujourd'hui, on s'adapte, naturellement, mais c'est toujours la même pensée, c'est toujours la même chose. Alors, je crois que nous avons besoin d'être modernes tout en restant, eh bien là, attachés aux valeurs fondamentales, aux vérités fondamentales. Aujourd'hui, vous savez, l'évangile est diffusé de différentes façons. Hein. Il est porté par le web, Internet, c'est avec des supports tels que la vidéo, l'audio et tout ça. Mais ça contribue. C'est ce qui compte, c'est le message et celui que l'on fait et que l'on révèle. Ça, c'est quand même important. Alors, ça fait partie naturellement des choses de notre vie moderne. Et on s'adresse aussi beaucoup plus aux jeunes. Qui sont très à l'aise avec ces moyens modernes. Mais peu importe, il y en a pour tout le monde. Et je pense que nous avons besoin de sortir du stéréotype. Voilà, le classicisme de nos églises, qui sont des églises issues de la réforme, hein, il faut bien le dire, hein, notre racine, et nous nous adressons à une population qui majoritairement, et quand même une population en France et dans nos pays d'Europe occidentale d'origine latine, et voire de confession du catholicisme. Donc, je remets un petit peu tout ça en place. Hein. Alors, je pense que nous avons des stéréotypes et il faut en sortir. Et vous savez, Jésus le dira d'une manière très claire et audible. Quand il terminera finalement, quand les choses seront terminées, juste avant de remonter au ciel, il dira « Mais allez par tout le monde, allez par tous les hommes du monde, allez, visitez-les, parlez-leur, annoncez-leur, et annoncez-leur l'évangile surtout. Proclamez le message de l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui croira. Allez par tout le monde. » Donc c'est pas de rester statique, mais c'est d'aller. Mais allez pas de n'importe quelle manière, pas de n'importe quelle façon. Nous avons à discerner ce qui est peut-être le point fort de notre témoignage. Il y a des évangélistes qui sont tout feu, tout flamme. Il y a des enseignants et des docteurs de la parole de Dieu. Il y a des prophètes, il y a des apôtres. Et chacun a reçu quelque chose en propre. Et c'est une, en quelque sorte, c'est pour provoquer notre réflexion à chacun de savoir, mais où je me situe. Certains, peut-être, parmi nous disent, mais je peux pas faire ça, et je sais qu'il y en a d'autres qui arrivent, mais moi, ça me décourage. Mais Dieu ne vous demande pas de faire ce que l'autre fait. Il vous demande d'être ce que vous êtes. Simplement. Sans complexe. Parce que je suis sûr que chacun a quelque chose. Alors, nous allons voir, et nous allons passer en revue brièvement, quelques particularismes de l'évangélisation. Et je commencerai par une manière, une façon, une forme, un style d'évangélisation qu'est l'évangélisation que je nommerai persuasive. Celui qui est un modèle dans ce sens, c'est l'apôtre Paul, qui va utiliser la persuasion. Il dira « Je n'ai pas honte de l'évangile ». C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alors, il utilise la persuasion auprès des philosophes et des érudits. Vous savez que Paul était un universitaire, un homme qui avait étudié à Tarse, dans l'université de Tarse. Et il s'est trouvé un jour, eh bien, à Athènes. Et à Athènes, c'était quand même une capitale de la pensée. Là où il y avait tout un brassage d'idéologie, de philosophie, et le chapitre 17 du livre des Actes nous dit bien qu'il s'est trouvé un jour donc dans cette ville où tous ces philosophes se prenaient les maîtres à penser pour le monde entier. D'ailleurs, nous en avons quelques vestiges dans notre société française, d'abord le langage avec le grec, et nous apercevons que il a eu une adaptabilité à parler et annoncer l'évangile. Sa méthode fait appel à la raison. Et nous aurons des gens avec lesquels Dieu va nous confronter, où il faudra parler avec la raison ou le raisonnement. Ça ne veut pas dire que nous allons annoncer un évangile qui n'est que intellectuel et cérébral. Mais nous allons rencontrer des gens comme ça. C'est pas dû à tout le monde, c'est pas donné à tout le monde, mais quelquefois, eh bien, il faut user. Ce sont des gens qui vont être accessibles parce que on va se mettre sur leur terrain. Je me suis fait tout à tous, dit Paul. Et ces gens ne comprennent que dans la mesure où ça passe d'abord par la tête avant de descendre dans le cœur. Voyez un peu ce que je veux dire. Et de provoquer chez eux, ces gens qui ne font que penser, eh bien, tout simplement la réflexion. Et pour nous, en ce qui nous concerne, alors à ce moment-là, si Dieu nous conduit dans cette direction, nous, la performance que nous devons avoir, c'est de bien connaître notre Bible. Bien connaître et d'étudier la Bible. D'avoir une bonne connaissance, même simple, même basique, sur les vérités fondamentales de l'Évangile, de ce message, tout simplement, de l'Évangile. Et Paul connaissait bien l'histoire et il connaissait bien le contexte. Puisque, à un moment donné, la prédication, elle est venue toute seule. Quand il se promenait dans Athènes, et que là, eh bien, il a rencontré un hôtel où il y avait marqué un dieu inconnu. La ville d'Athènes était une ville où il y avait énormément de divinités. C'était du paganisme. Un dieu de ceci, un dieu de cela, une déesse de ceci, une déesse de cela. Et à un moment donné, sur une place, alors qu'il était acheminé dans la ville d'Athènes, il s'est trouvé devant une statue où il y avait ça, un dieu inconnu. Je dirais que c'était du pain béni pour lui. Parce que vous savez comment il a fait ? Il a dit, le Dieu que vous ne connaissez pas, vous n'avez même pas pu mettre un nom sur cette stèle. Eh bien, moi, je vous l'annonce, il s'appelle Jésus-Christ. Et il va, d'une manière admirable, d'une manière extraordinaire, il va s'adresser à ces philosophes de deux tendances, épicuriens et stoïciens. Et là, il va donner quelque chose de formidable. Il ne va pas parler du grand Dieu d'Israël, du puissant, ils ne connaissent pas tout ça. Avec ces gens d'une haute élévation intellectuelle, il va leur parler comme à des petits-enfants. Il va leur dire, mais le Dieu qui est dans les cieux, celui qui a fait le ciel et la terre, et celui qui vous donne la joie, le bonheur, tous les jours de votre vie, qui a fait que les hommes soient réunis, eh bien, d'un même sang, et ceci et cela, Il a raconté ça, et ça a été véritablement, un formidable message évangélique qui a été donné à cette population. Vous allez me dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de convertis. Mais néanmoins, le message a passé. L'adaptation au milieu et au contexte. Comment allons-nous parler aujourd'hui dans notre monde où il y a une dévalorisation systématique des valeurs morales, des repères qui disparaissent à travers la mise à bas de la conception de la famille, voire du couple, et puis de beaucoup de choses comme ça, où la laïcité prend sa place, prend la place de tout. Alors comment pouvons-nous faire ? Dans un monde matérialiste où les gens n'ont pas d'autre dieu que quelque part, vivons et mangeons parce que demain nous allons mourir. C'est de l'existentialiste. C'est une philosophie. Alors comment allons-nous nous adapter ? Si nous venons avec des versets bibliques en leur collant ça sur le front en disant voilà ceci et cela, ils vont rien comprendre parce que on lit de moins en moins la Bible. Comment peut-on faire ? Paul s'était bien adapté à ces philosophes d'Athènes en leur donnant l'ABC de l'évangile. Parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. Ces gens qui se piquaient d'être les maîtres à penser du monde entier, peut-être qu'ils ont été humiliés quand Paul leur disait, mais vous savez, le salut de Dieu, c'est plus simple que vous le pensez, C'est beaucoup plus simple que vous le pensez. C'est tout simplement de croire à quelqu'un qui était vivant et qui est mort. Alors là, ça les a complètement affolés, Et qui est vivant aujourd'hui, qui est ressuscité. Ah, ça les a, bon, des philosophes, quand on est mort, on est bien mort, Eh ben oui. Mais l'évangile, c'est de croire que, quelqu'un a donné sa vie, qu'il est mort pour chacun d'entre nous, il n'est pas mort pour lui-même, il est mort pour chacun d'entre nous, et qu'aujourd'hui, il est ressuscité, il est vivant, et que les hommes par millions invoquent son nom, et qu'il est encore tout puissant, même du haut du ciel, pour écouter nos prières, et pour nous délivrer, nous faire du bien, et nous sauver, et nous pardonner nos péchés. Paul, à Athènes, a pris cette méthode, l'évangélisation persuasive. Voilà. Où les gens sont bouleversés, se disent, mais c'est ça la vérité. C'est ça ce qui est vrai. Il y a maintenant un autre aspect, c'est l'évangile offensif. Alors, il y a des spécialistes, Nous, on a dans nos milieux, dans nos églises, des évangélistes. L'évangéliste, c'est quelqu'un qui va dire d'une manière assez frontale, venez à Jésus-Christ, convertissez-vous à Jésus-Christ parce que vous êtes perdus. C'est pareil. Tout le monde ne le peut pas faire. Moi, je suis pas un évangéliste, vous l'avez constaté. Je peux faire de l'évangélisation, mais c'est pas mon ministère, je ne saurais pas le faire. Je serais bien embarrassé, parce qu'eux, ils sont capables d'aller sur le trottoir, sur les marchés, dans n'importe quelle situation, vous savez, ils sont comme les chats, ils retombent toujours sur leurs jambes. Mais ils ont quelque chose. Ils ont une faculté de faire les choses. Ils sont audacieux, ils sont courageux. Et nous avons un type de personnage dans la Bible, dans cette manière audacieuse, c'est celle de Pierre, l'apôtre Pierre. Alors, vous savez que Pierre, dans son caractère, il nous est souvent dépeint dans l'Évangile. C'est un homme qui réfléchit après avoir parlé. Il se dit, oh, remarquez, il a renié quand même trois fois le Seigneur, bien qu'il ait entendu le chant du coq et qu'il ait été prévenu. Mais Pierre, c'est toujours ça. Vous savez, Pierre, c'est l'homme, la personnalité impétueuse. Il fonce, c'est un fonceur. Et l'évangéliste, c'est ça, en quelque sorte, la méthode offensive. Et c'est un message qu'il délivre où tout est action. Et quand il parle d'une chose, il l'assure. Et il provoque à la repentance, parce que c'est ça l'évangéliste. Repentez-vous. Après, vous verrez ce qui va se passer. Après, vous suivrez Jésus. Vous aurez, là, un conducteur qui sera un berger, que l'on appelle un pasteur. Donc vous rentrerez dans une communauté, puis après vous ferez votre vie, vous allez vous développer, vous allez devenir après des ambassadeurs. Mais l'évangéliste, c'est lui qui démarre. C'est le starter, vous savez, comme... Et ils sont assez étonnants, les évangélistes, parce qu'ils ont toujours des histoires à raconter. C'est pas qu'ils prêchent tant le texte, comme un pasteur peut le faire, mais ils prêchent sur des fêtes, ils prêchent sur des choses flagrantes, ils vont se servir des événements du quotidien. Ils diront, par exemple, vous savez, avec tous les événements politiques et les menaces de guerre, le Seigneur revient bientôt. Il va insister là-dessus. C'est peut-être vrai, hein. Ça, c'est sûr. Préparez-vous. Levez les têtes. Levez vos têtes. Parce que le Seigneur revient. Alors, ça, c'est l'évangéliste. Et on sait très bien que il provoque quelque part un bouleversement dans la conscience des gens. Ils ont ça. C'est Dieu qui leur a donné ce don. Et les gens se disent, mais effectivement, c'est vrai. J'avais jamais pensé à ça. Mais aujourd'hui, je m'aperçois avec ce que j'entends, mais je suis perdu. Voilà. Et Dieu va faire avec son Saint-Esprit un cheminement. Et à un moment donné, ils vont aller de plus en plus loin jusqu'au jour où ils vont dire, mais Seigneur, je me suis aperçu que ma vie, elle était vaine jusqu'à maintenant. Elle était que pour des choses passagères, pour des choses éphémères, des choses qui disparaîtront. Mais aujourd'hui, je prends conscience qu'il y a une autre valeur, il y a une autre dimension. Et là, à ce moment-là, ils confessent leur péché. Ils demandent pardon à Dieu, ce qu'on appelle la repentance, et ils se convertissent, non pas à une église, au centre évangélique de Saint-Nazaire, mais ils se convertissent à Jésus-Christ. C'est un beau travail, ça. Ça, c'est la méthode de Pierre. Pierre, oui. Et dans le livre des Actes des Apôtres, je vais vous en donner un exemple, parce qu'on va parler avec des exemples. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, eh bien, nous en avons vraiment la démonstration, et vous allez voir ce que c'est, hein, ce que ça peut représenter. Alors, on va regarder ça. Vous savez que j'ai pas qu'une page dans ma Bible, et quand je tourne les pages, je ne sais plus où j'en suis. Alors voilà, on y arrive. Voilà, chapitre 2. Et nous avons, eh bien, cette façon de percuter de Pierre. Chapitre 2, versets 36 et 37, voilà ce qui... C'est tout de suite après son discours fleuve de la Pentecôte. Pierre dira ceci, que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et regardez les résultats. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Regardez le résultat, il est déjà immédiat. Les gens sont touchés, ils sont bouleversés, ils ont entendu ce message, et là ils se disent, « Mais on ne peut pas rester comme ça. » Alors ils parlaient à des Juifs, hein. Ils parlaient à des Israélites, qui savaient très bien ce qui s'était passé, et qu'ils avaient été peut-être aussi la main criminelle pour tuer Jésus, hein, naturellement. Et qu'est-ce que Pierre leur répond ? Repentez-vous, et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit, qui vous conduira dans toute la vérité. Et le verset 21 poursuit, le verset nous dit ceci, tout simplement, parce que la promesse est pour vous, pour vos enfants, etc. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ça, c'est l'évangéliste. On a parlé de la prédication persuasive, qui fait appel à la raison. L'évangélisation offensive. Et puis, il y a également celle que nous utilisons le plus. Et vous allez reconnaître. Ce qu'on appelle la prédication ou l'évangélisation narrative. Qu'est-ce que ça veut dire ? Narratif. Qui relate un fait ou un événement, une histoire. Et entre autres la nôtre. Lorsque nous rencontrons des gens, nous avons parfois l'opportunité de parler en répondant peut-être à leurs questions et en mettant dans le témoignage, eh bien tout simplement ce qui nous est arrivé, comment nous avons rencontré Jésus. Ce qu'il a fait pour nous. Le malade guéri dira, mais c'est Jésus. Et à partir du moment où j'ai senti dans tout mon corps la vie revenir alors que j'étais à la mort, eh bien, je me suis aperçu à ce moment-là qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait. D'autres diront, mais le Seigneur est venu me secourir dans une épouvantable détresse matérielle, voire économique, j'avais tout perdu. D'autres pourra confesser, mais avant, j'étais un alcoolique, j'étais un drogué, j'étais un violent, j'étais ceci et j'étais cela. On raconte notre histoire. Et nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Je dis qu'à 90%, parce que je ne veux pas le faire le 100%, mais tous les membres de nos églises ont à leur actif une expérience qu'ils vont ensuite raconter. C'est ce qu'on appelle le témoignage. Vous racontez votre vie. C'est plus facile de raconter notre vie que celle des autres. On peut prendre quelques exemples en disant « j'ai connu un homme » ou « j'ai connu une femme » parce que ça fait appel peut-être à une situation similaire avec la personne, votre interlocuteur. qui n'est pas votre vécu, mais que vous savez très bien. Et vous lui dites, ben voilà, moi j'ai vu comment le Seigneur a fait. Ah, il l'a pris, il l'a sorti de la fange, et puis il en a fait un homme ou une femme qui était complètement changé et transformé. C'est donc l'évangélisation narrative, et nous avons un exemple formidable dans le livre des Actes. C'est cet aveugle qui était, vivait sa cécité depuis sa naissance. Vous savez, il nous est dit qu'il était aveugle de naissance. Alors, on est venu poser la question à Jésus, mais Seigneur, est-ce que c'est de sa faute ou de la faute de ses parents s'il est né aveugle? Jésus va répondre, il va dire, mais attendez, c'est pas la peine d'extrapoler sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et cet homme va être guéri. Jésus va le guérir de sa cécité. Et à ce moment-là, eh bien, naturellement, il va voir. Mais Jésus va disparaître. Et quelques jours après, il va rencontrer tout à nouveau Jésus. Et les gens vont venir vers cet aveugle, parce qu'il l'avait connu aveugle depuis toujours, depuis sa plus tendre enfance. C'était un homme. Il avait peut-être passé au milieu de ses contemporains ou ses concitoyens, peut-être 30 ans, 40 ans, je ne sais pas quel âge il avait. Et les gens venaient lui dire, mais nous t'avons connu aveugle, et maintenant tu vois. Et vous savez ce qu'il aura répondu? Je sais une chose. Je sais aussi, c'est que hier j'étais aveugle et maintenant je vois. Ça, c'est de la persuasion aussi. J'étais aveugle et maintenant je vois. Mais qui t'a fait voir? Et qu'est-ce qu'il va raconter? Eh bien, il va tout simplement raconter son témoignage. L'homme que l'on appelle Jésus a posé ses mains sur mes yeux. Il m'a dit, va te laver à la fontaine de Siloé et tu vas recouvrer la vue. Et c'est ce qui s'est passé. Il a obéi, il a cru, il a obéi. Et tout le monde a vu à ce moment-là. Et qu'est-ce qui était la force de son témoignage? Eh bien encore, je le répète pour la troisième fois, j'étais aveugle et maintenant je vois. Quel crédit, quelle puissance quand on vit des choses comme ça. Et tous les gens savaient que, ben avant ils ne voyaient pas et maintenant ils voient. Et vous savez que on a voulu tuer Jésus pour cette affaire, hein, parce que Jésus faisait des miracles. Alors, c'est ça. On pourrait dire, c'est l'évangélisation narrative. Cet aveugle savait si peu de Jésus qu'il l'avait guéri comme cela, eh bien, d'une manière tellement discrète. Mais il savait une chose, c'est que ce que Jésus avait fait pour lui. Et vous savez, si nous sommes convaincus que Jésus a fait des choses pour nous, petites ou grandes, eh bien, nous avons là entre les mains un trésor pour devenir des évangélistes, pour devenir des témoins de Jésus-Christ, et plus encore, avec beaucoup plus d'honneur, pour devenir des ambassadeurs de notre roi. C'est une force, c'est une puissance. Son expérience de guérison a été la marque. Le monde, et je voudrais le dire, a toujours besoin d'entendre des témoignages de vie transformée. Ah oui. Chacun d'entre nous, nous avons fait quand même des sacrées expériences. Autant que je puisse m'en souvenir, ça fait plus de 40 ans maintenant. Vous savez, le Seigneur est venu vraiment me chercher très bas. Hein. Ça se voit pas maintenant. Hein. J'ai bonne mine. Mais, vous savez, il m'a récupéré dans une situation vraiment de désespoir, de désarroi le plus profond. J'avais 20 ans. Mais je sais ce qu'il a fait pour moi. Et je peux dire comme l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru. Et il a bouleversé ma vie. À partir du moment où il m'a pris, il m'a saisi, eh bien je dis que ma vie a été complètement changée. Et plus est, il m'a dit maintenant, eh bien, tu vas vivre d'une autre manière, mais tu vas me servir. Tu vas devenir mon ambassadeur. Vous rendez compte, vous avez un ambassadeur au milieu de vous. Appelez-moi Excellence, ça me fera plaisir. Et mon épouse, c'est Madame l'ambassadrice. Je ne voudrais pas la laisser de côté quand même. Savoir en qui nous croyons et pourquoi nous croyons. Ça, c'est vraiment les bases de la vie chrétienne. Je sais en qui, c'est Jésus. Mais je sais pourquoi je crois en lui, parce qu'il m'a fait du bien. Parce qu'il m'a sauvé, il m'a pardonné mes péchés. Et aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Ça, c'est l'évangélisation narrative. Je voudrais vous parler de ce qui se fait très souvent dans nos églises et dans d'autres communautés chrétiennes. C'est l'évangélisation conviviale. Vous devinez un peu ce que ça peut être? Il y a un exemple type. C'est l'histoire de Matthieu Lévi, vous savez, celui qui est à l'origine de l'évangile que nous avons, le premier des évangiles. Il a rencontré un jour Jésus. Jésus lui a dit, viens, suis-moi. Il a tout laissé tomber sur le moment. C'est très, très vif, hein, très, très marqué. Qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qui lui est venue à l'idée, c'est de faire un festin et d'inviter tous ses amis et toutes ses connaissances. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Et il m'a dit, les amis, écoutez, puisque j'ai trouvé maintenant la perle de grand prix, j'ai trouvé une vie nouvelle, moi, Matthieu, eh bien, je vous invite à venir tous dans ma maison et je vous fais un repas de noces. C'est ce qui s'est passé. Vous lisez les textes. Et vous savez pourquoi il l'a fait, Matthieu? Parce que lui, il avait découvert Jésus. Mais il voulait que ses connaissances et ses amis, eh bien, rencontrent Jésus dans sa maison. Vous savez, quelquefois, l'évangélisation peut se faire de cette manière. Vous habitez dans une maison, hein. Et quelquefois, on a des gens, on peut leur dire comme ça. Alors, c'est toujours avec beaucoup de doigté, avec beaucoup de perspicacité, d'intelligence, et conduit par le Saint-Esprit qu'on doit rendre témoignage. Je le dis au passage. Faut pas y aller avec ses gros sabots, hein. Non, non. Mais il avait voulu que celui qu'il avait découvert, eh bien, ses amis le rencontrent. Et ils se sont mis à table. Ça devait être joyeux dans la maison de Matthieu. Hein. Il y a même des pharisiens qui sont arrivés en disant « Mais ils mangent avec des gens de mauvaise vie et tout ça. » Laissons-les dire, ça les intéressait pas. Laissons-les dire. Et il avait le souci de construire et de se servir de ces relations amicales pour aider certaines personnes dans leur cheminement vers Jésus-Christ. Et il a gagné, parce qu'il a dû y avoir des choses qui se sont passées. C'est dans une atmosphère favorable et incitative que quelquefois, eh bien, les choses se font. On a eu des conversions, on a eu des décisions pour Jésus de cette manière parce que on a entouré des amis et ils nous ont fait crédit. Ils nous ont fait confiance, c'est ça ce que je veux dire. Hein. Et ils ont écouté, ils ont été bouleversés par notre manière de vivre. Alors on les a peut-être invités pour ceci et cela, autour d'une table, peut-être autour d'un café ou d'un thé, peu importe hein, les circonstances. Et à ce moment-là, la conversation est venue, ils ont vu comment nous vivions, et puis ça leur a donné confiance en disant « Mais leur foi, elle est quand même quelque chose, c'est quelque chose. » Ils vivent d'une manière très simple, et puis même... Moi, ça a été un point très important. Quand vous mettez à table et que vous commencez à remercier le Seigneur, ça, c'est bouleversant, hein, de dire, mais ils ont prisé, donc il y a quelque chose qui se passe. Alors, faites pas une prière de trois quarts d'heure lorsqu'ils ont le nez devant l'assiette et qu'ils ont faim. Hein, parce que là, je peux vous dire qu'ils vont retenir grand-chose. Hein. Non, non, mais c'est des questions pratiques. Moi, je suis pratique. Hein. Vous avez remarqué. Cette convivialité d'être gentil avec les gens, d'être aimable, non pas dans une démarche commerciale de dire, ah ben, je vais lui faire entendre l'évangile et puis, voilà, il faut que je gagne des âmes. Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Et puis, il y a l'évangélisation indicatrice. Je m'explique. Où, cette évangélisation, nous sommes quelque part, et pardonnez-moi l'expression, mais comme des poteaux indicateurs. Vous savez, sur les autoroutes, il y a des directions, hein. Et que nous sommes là, même si c'est silencieux, nous sommes là et que nous indiquons par notre vie la direction qu'il faut suivre. Et, d'amener les gens, justement, eh bien, en qui et comment croire. Tout à l'heure, nous avions parlé de en qui et le comment croire. Là, maintenant, c'est en qui, parce que c'est toujours Jésus, et comment croire. Il y a une femme que nous connaissons sous le nom de la Samaritaine, qui a été un excellent jalon. Elle a su parler de sa découverte inattendue de Jésus aux habitants de sa ville, qui était la ville de Sichar. Et elle a dit, venez voir! J'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ça, c'est de l'évangélisation, hein. Et elle a convaincu tous ses habitants de Sichar que Jésus était le Messie et le Sauveur. Dans Jean, on va reprendre un peu les choses. Dans Jean, chapitre 4, nous avons cette belle histoire. Je veux le lire que par bribes. Mais elle est quand même significative. Et nous voyons qu'au verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et ils disaient à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu de nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ah ! Là, c'est une belle affaire. C'est quelque chose de formidable. Ouais. Elle a su convaincre. Et pourtant, je peux vous dire que la Samaritaine avait un passé sulfureux. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Une dame de petite vie ou de petite vertu. Elle était connue à Sichar pour... Bon, elle n'était pas forcément recommandable. Mais Jésus s'est retourné, il a parlé particulièrement à cette femme, courtisane. Et c'est à travers elle que Jésus s'est servi, en bouleversant sa conscience. Non pas en l'accusant, mais en lui donnant l'espoir d'un pardon d'une vie passée détestable. Et là, elle a pu en parler tout autour d'elle. Et le message est passé. Puisque ils lui diront à un moment donné, c'est plus à cause de ce que tu nous as dit, mais maintenant nous l'avons vu, nous l'avons entendu, et nous savons qu'il est le sauveur du monde. Vous trouvez pas que ça, c'est quelque chose? Elle était un poteau indicateur, en quelque sorte. Et puis il y a l'évangélisation, style servir les autres. Oui, quelquefois nous n'avons pas besoin de dire grand-chose, mais nous servons les autres. Dieu a mis à cœur cette compassion. Il a mis à cœur de donner la main à ce qui peut contribuer au développement du royaume de Dieu, et à faire connaître le nom de Jésus. Il y a une autre dame, celle-là très recommandable. Dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez me dire si vous la reconnaissez au chapitre 9. Alors tout de suite, vous allez regarder dans votre Bible en disant « J'ai trouvé ». Qui c'est qui a dit ça? Ah, bravo! Très bien, parce qu'on a Dorcas, on n'en entend pas trop souvent parler. Dorcas a un témoignage formidable, aussi étonnant que percutant. Et vous savez pourquoi? Elle faisait de la couture. Alors, mesdames, vous allez vous mettre à faire de la couture. Du tricotat. Vous savez ce que c'est? Alors, ça a été quelque chose d'étonnant. C'était un témoignage silencieux, mais continuel. Et elle faisait les choses en arc. Je ne veux pas relire tout le texte. Il nous est dit qu'elle faisait de beaux habits, qu'elle faisait de beaux vêtements, qu'elle faisait toutes sortes de choses avec le tissu, etc. Et elle devait en faire profiter tout le monde. Elle avait un don dans ses doigts dentelière. Et elle était connue. Elle habitait Joppé, je crois. Hein. C'est ça, la ville de Joppé. Et elle faisait du bien. Elle faisait le bien. Et le jour où elle est décédée, mais elle est décédée puis elle est ressuscitée, hein. C'est quelque chose, c'est avec l'apôtre Pierre. Il nous est donné justement cette signification. Il nous est dit qu'il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Oui. Et nous voyons que un peu plus loin, au verset 42, eh bien, le témoignage qui était rendu, cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé, chez un corroyeur, etc. Mais c'était un témoignage, elle était au service des autres. Et en servant les autres, eh bien, elle a eu certainement plus d'une fois l'occasion de parler de sa foi en Jésus-Christ. Et elle avait un crédit, on lui faisait confiance. Et le jour où elle était malade, le jour où Pierre est arrivé et qu'elle est ressuscitée des morts à la Rolassa, à ce moment-là, on s'est souvenu qu'elle était une prédicatrice de l'Évangile, silencieusement, mais par ses mains, parce que elle faisait des belles choses. C'est bien de faire des belles choses. Vous voyez, il y a des choses qui ont été faites ici à plusieurs reprises depuis une dizaine d'années. Hein. Vous voyez, pour les missions, pour envoyer de l'argent dans ceci et cela, dans des situations, voilà. Mais c'est un témoignage, servir les autres. Et puis, il y a un autre témoignage que je l'appellerais le témoignage relais ou papillon. Alors, je vais vous dire pourquoi, parce qu'un papillon, il butine d'une fleur à une autre. Hein. Voilà. Ou abeille, si vous aimez mieux. Hein. L'évangélisation relais, c'est-à-dire ça se passe de bouche à oreille. Voilà, donc là, il faut parler naturellement. Et nous avons un exemple formidable où dans les premiers temps de l'évangile, il y a eu toute une suite d'hommes qui sont devenus des évangélistes ou qui sont devenus des disciples et des apôtres de Jésus-Christ, qui se sont passés finalement le mot les uns après les autres. Ça commence par Jean-Baptiste, ensuite par André, ensuite par Pierre, après Philippe, et ça arrive à la confession de Nathanaël. On va regarder ça rapidement dans 1 Jean, chapitre 1er. Et c'est intéressant de prendre en considération comment les choses sont passées. Le verset 32 de 1 Jean, il nous est dit « Jean-Baptiste, rendis ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur Jésus. » Le verset 35, « Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il lui dit « Voici l'agneau de Dieu. » Les dix disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. C'est un témoignage. Un peu plus loin, au verset 37, il nous est simplement rappelé cette parole. Ben, c'est ce que je viens de lire. C'est Jésus qui leur... Donc, ils suivirent Jésus. Et encore un petit peu plus loin, c'est André, au verset 40 et 41. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère, Simon, c'est Pierre, hein, l'apôtre Pierre, hein, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et si nous allons encore un peu plus loin, Pierre, au verset 45, il nous est saint, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé le Messie, et il lui dira cette parole, viens et vois. Et toute l'histoire de bouche à oreille va se terminer par cette confession là qui est donné au verset 49, Nathanaël répondit et dit à Jésus, « Rabbi, tu es le fils de Dieu, le roi d'Israël. » Imaginez-vous le bouche à oreille, ça s'est passé de l'un à l'autre. Et vous savez, n'attendez pas que lorsque vous avez rendu témoignage, toujours, hein, quand vous rendez témoignage, que c'est vous êtes le semeur, vous n'êtes pas forcément le moissonneur. Combien dans l'histoire, dans notre histoire de ministère pastoral, nous avons vu des gens qui avaient reçu le témoignage complètement à l'autre bout de la France ou dans un autre pays, et qui, par un cheminement, sont allés de telle et telle manière, et quand ils sont arrivés peut-être dans l'église, et à ce moment-là, ils ont cru, ils étaient prêts à croire, et on les a baptisés. Celui qui a rendu le témoignage le premier, il n'a jamais su. Hein. Eh bien, ne désespérez pas, continuez à rendre témoignage, même s'ils n'en voyaient pas les résultats. Parlez au nom de Jésus-Christ, et parlez de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui va vous conduire et vous diriger. Ouais. Nous voulons toujours voir le début et la fin. Nous voulons toujours voir le blé en herbe et nous voulons voir le blé qui est en épi. Il y a beaucoup plus de travail dans l'œuvre de l'évangélisation par l'action du Saint-Esprit que nous pouvons penser. Et vous verrez dans le ciel, je vous le dis, j'y suis pas allé encore, hein, mais je vous le dis que dans le ciel, j'en suis convaincu qu'il y aura des grandes surprises de l'autre côté, des gens auxquels nous aurons dit qu'un mot et qui par le fil, dans le fil de leur existence, eh bien, se seront convertis à Jésus-Christ. C'est un encouragement, hein. Faut voir au-delà de notre petite vision. Il y a l'évangile des bonnes relations qui peut ressembler un petit peu à Matthieu dans notre entourage. Un cœur sans préjugés, parce qu'il faut pas avoir des préjugés, hein, quand on est ambassadeur. Ah oui. Quand on est ambassadeur, quand il est des pays orientaux ou dans les pays arabes, il dit, oh, c'est pas comme en France, hein. Mais il sera jamais ambassadeur, on sera pas un bon ambassadeur, hein. Et nous, c'est pareil, hein. On ne défend pas un clocher. On ne défend pas une chapelle. On ne défend pas un pasteur, on ne défend pas un mouvement, c'est de Jésus que l'on parle. Ça, je vous l'ai déjà dit, hein. Ça va peut-être finir par vous ennuyer, mais... Non, moi, je suis prédicateur de Jésus, je suis pas prédicateur, finalement, du centre évangélique. Fort heureusement, je suis très heureux au milieu de vous. Je vous le dis en particulier, je vous le dis quand même. Mais, néanmoins, il faut pas avoir de préjugés. Ah, celui-ci, je ne lui rends pas témoignage parce qu'il a pas quand même une bonne mine. Puis avec la vie qu'il a eue, hein, il se convertira jamais. Mais ça, vous pouvez pas le savoir. C'est le témoignage d'autrui, rendu, finalement, sur notre personne par les autres, à travers, eh bien, des actes de bienveillance ou de bienfaisance. C'est l'histoire du centenier romain. Vous connaissez l'histoire, quand il est venu pour chercher Jésus, pour que son serviteur soit guéri. C'est dans Luc, hein, au chapitre 7, où il est dit ceci. Voilà, donc, le centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, eh bien, il est venu solliciter la guérison auprès de Jésus. Mais tous les gens du village, tous les gens de la ville, qui connaissaient le centenier pour sa bienfaisance et sa bienveillance, eh bien, voilà qu'il y a eu une délégation qui sont venus voir Jésus en disant ceci. Ils arrivèrent auprès de Jésus, lui adressèrent d'instantes supplications en disant, il mérite que tu lui accordes ça, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il s'était fait une réputation de bienfaisance et de bienveillance. Vaut mieux ça que le contraire, hein. Quand un chrétien porte un témoignage que l'on rend de lui, qui est lourd, en disant il a mauvais caractère, Vous savez, attendez, hein, il a des œillères, hein, il est pas très ouvert hein, d'esprit et de cœur. Bah, écoutez, c'est un très mauvais témoignage, il faut pas vous attendre à quelque chose. Et si vous êtes joyeux, si vous avez toutes ces dispositions, qui fera de vous un formidable témoin de Jésus-Christ, mais le Seigneur va vous servir de vous. Hein. Si nous venons avec les gens avec une tête comme ça en disant, vous savez, moi j'ai connu Jésus hein, il y a 60 ans. Hein. Oh, mais c'était formidable à l'époque, mais tout le monde a changé. Hein. Et puis vous leur parlez en disant, bah, depuis que je suis chrétien, vous savez, c'est la galère. Hein. Alors à ce moment-là, vous n'aurez personne. Eh, c'est pas nous qui ramons. Hein. Non, Seigneur, c'est lui qui nous porte. Il a mis des voiles et il fait souffler le vent de l'esprit sur notre vie. Alors, ça c'était l'évangile des bonnes relations. L'évangile, l'évangélisation démonstratrice, c'est la hardiesse de confession. C'était l'histoire du paralysé qui était malade, vous savez, à la piscine de Bethesda, qui était souffrant depuis 38 ans. Et c'est aussi dans Jean. Alors, je tourne les pages de ma Bible aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas me souvenir, mais néanmoins, vous pouvez toujours les retrouver. Dans Jean, chapitre 5, et au verset 5, il nous est parlé de cet homme. Là se trouve un homme malade depuis 38 ans. Jésus va le guérir. Et nous apercevons que au verset 8 de cela, Jésus lui dira, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Et aussitôt, cet homme marcha, il fut guéri et il prit son lit, tout simplement. Alors, il nous a donné le témoignage final de son histoire au verset 15. Cet homme s'en alla, guéri naturellement, et il annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Vous vous rendez compte comment il est porteur? Il a fait une expérience, c'est aussi une expérience narrative, enfin l'évangélisation narrative. Je termine bientôt. Il y a l'évangélisation qui crie la joie, et ça faut pas l'oublier, hein. La joie de connaître Jésus. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je chante des cantiques avec enthousiasme. Dieu nous a fait des zygomatiques. Ce sont les muscles de la joue et tout ça pour montrer que nous avons la possibilité de sourire. Allez, souriez-moi un petit peu. Ça va? Bon. La joie. Nous sommes des communicateurs de joie, de bonheur. Bonheur d'avoir été pardonné. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Vous connaissez le petit cœur, hein? Je suis heureux parce que le Seigneur m'a délivré de tous mes problèmes et de toutes mes addictions. Communicateur d'enthousiasme. Être un chrétien heureux. Hein? Et vous savez, ça va se ressentir sur les cantiques qu'on va chanter tout à l'heure, hein? On en chante encore un. J'espère que c'est pas un cantique triste, Michel, hein? Mais enfin, même s'il est triste, on peut le chanter avec joie, hein? Quoi qu'il en soit. Eh oui. Regardez cet homme qui était à la belle porte du temple à Jérusalem, Actes chapitre 3, verset 6. Quand il nous est dit que il a rencontré Pierre et Jean. Je n'ai rien, dit Pierre. Je n'ai rien. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lui aussi s'est mis à marcher. Et après, il nous est dit qu'il est rentré dans le temple en chantant, en sautant et en louant Dieu. Il était content d'avoir retrouvé ses jambes, hein. Il sautait, hein. Être chrétien, c'est être joyeux, c'est d'être heureux de ce que nous sommes, et c'est de vivre ce que nous sommes, la joie du Seigneur. La vie n'est pas toujours rose, c'est vrai, il y a des moments difficiles, mais néanmoins, on a quand même le Seigneur avec nous, non? Eh oui. Et puis, il y a l'évangile, l'évangélisation explicative. C'est Philippe et l'Éthiopien. Ouais. L'évangélisation explicative, vous savez que il se retrouve sur un chemin désert qui va de Jérusalem à Gaza. Ils se retrouvent là, tous les deux à parler. Et puis, il y a Philippe, qui a été conduit par le Saint-Esprit, à venir auprès de cet Éthiopien, qui était un grand personnage, surintendant des trésors de la reine de Candace en Éthiopie. C'est pas n'importe qui, hein. Un homme de distinction. Et l'Esprit pousse Philippe, l'évangéliste, à aller voir finalement cet homme qui passe sur son char avec toute une cohorte, certainement somptueuse. Et il va l'arrêter, il va dire, écoute, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Eh oui, c'est ça. Comprends-tu ce que tu lis? Imaginez-vous un peu la scène, vous êtes dans le métro, vous avez quelqu'un qui lit votre journal, vous bêchez un peu le journal devant vous en disant, tu comprends ce que tu lis? Vous allez voir comment vous allez être reçu. Eh bien ça, il a eu le courage de le faire, Philippe. Hein. Et l'Éthiopien lui a dit avec beaucoup de, comment dire, beaucoup d'humilité, il lui a dit, mais Comment pourrais-je comprendre si personne ne me l'explique ? Eh bien, ça, c'est de l'évangélisation. Accompagner peut-être certaines personnes qui commencent et peut-être les prendre et leur dire, voilà, écoutez, tu pourrais pas m'expliquer ce passage ? Moi, ça m'arrive souvent, ça. Hein. Tu pourrais pas me dire ce que ça veut dire ? Et ça, c'est des préoccupations tout à fait normales pour les débutants et ceux qui commencent. Faut pas leur dire, débrouille-toi toi-même. Hein. Allez, tu sais lire, t'as qu'à te débrouiller. Non, faut les aider. Hein. Parce qu'ils sont en train de la nourriture qui va les faire grandir. Hein. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. C'est l'évangélisation explicative. Il faut être disponible, mes frères et sœurs. Faut pas renvoyer au calendrier grec ce qui peut être fait et quand on nous le demande. Il nous faut de la patience. Il nous faut de l'obéissance à la direction de l'esprit. Il nous faut de la disponibilité, de la flexibilité. C'est de l'évangélisation. Et en conclusion, je prendrai par l'exemple du maître, c'est-à-dire Jésus, avec l'histoire du fils du jeune homme riche. Et vous connaissez un peu ce qui s'est passé. C'est que ce jeune homme est venu s'affaler devant Jésus en disant « Dis-moi ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. » Et là, il va réciter les 10 commandements, etc., etc. Ça, c'est la loi. Et Jésus va lui dire « Il te manque une chose, mon ami. Une chose. » Mais avant de lui dire ça, il nous a dit 3 mots, 3 verbes. Jésus le regarda, Jésus l'aima, et Jésus lui dit « Si vous prenez les choses dans cet ordre, vous gagnerez toujours dans le témoignage. Il faut commencer déjà par connaître les gens, les regarder. Il faut ensuite les aimer. Et après, vous pouvez leur dire le message. Et souvent, nous faisons le contraire. Nous commençons à débiter, à dire toutes sortes de choses, sans savoir à qui nous parlons. Jésus le regarda, il l'aima, et il lui dit, « Viens, suis-moi. » Et c'est comme ça que les choses, eh bien, se sont faites. Alors, fini l'évangélisation conditionnée, préformatée, prosélytique. Vous savez que on n'est pas là pour faire des prosélytes. On est là pour faire des hommes et des femmes, des disciples de Jésus-Christ et des chrétiens. Pas de prosélytisme. C'est très désagréable. Moi, je voudrais pas, hein, qu'on m'en fasse. Et nous avons besoin d'être des ambassadeurs du royaume de Dieu conduit et inspiré par le Saint-Esprit. Un dernier conseil. Dans 2 Timothée, nous avons cette simple parole qui nous est relatée et que vous connaissez naturellement. 2 à Timothée, chapitre 1er, verset 6. Écoutez bien. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Écoutez, ranimer la flamme du don de Dieu. Nous avons tous reçu quelque chose en particulier. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alors n'aie pas honte de rendre témoignage de Jésus-Christ. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité. Comment pouvons-nous être ses ambassadeurs si nous sommes complètement englués dans notre timidité? Elle est commune à tout le monde. Hein. Elle est commune à tout le monde. Qu'est-ce que j'ai pu être timide quand j'étais plus jeune et qu'il fallait que je prêche en église? Froid, ça rend malade. J'espère que ça en rassure quelques-uns. Hein. Bon, aujourd'hui, avec l'habitude, ça s'est passé un petit peu. Hein. Mais vous savez, dans certaines circonstances inhabituelles pour moi, j'ai le trac, ça me rend malade. Mais ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Par le Saint-Esprit, ça vient pas de nous, c'est le Seigneur qui nous le donne. C'est le Seigneur qui nous le donne. Alors la question s'adresse à chacun d'entre nous. Une question que nous avons dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 6 et verset 8, où il est dit cette parole, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je ? Et qui marchera pour nous ?» Et je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Est-ce que nous sommes prêts à répondre à cette injonction du Seigneur ? Envoie-moi, Seigneur. Je vais peut-être faire les choses avec peut-être un peu de maladresse. Je serai peut-être pas toujours à la hauteur. Mais Seigneur, tu vas me donner ta sagesse, un esprit d'amour, un esprit de force et de hardiesse. Et à ce moment-là, ce sera pas toi qui vas faire les choses. Ce sera pas moi qui vais les faire. C'est toi qui vas les faire à travers moi. Je ne suis qu'un vase. Connaissez le chant ? Je ne suis qu'un vase d'argile. Mais toi, tu es le potier, Seigneur. C'est comme ça que l'on devient finalement, eh bien, un ambassadeur. Évangélisation persuasive. évangélisation offensive, évangélisation narrative, évangélisation conviviale, évangélisation indicatrice, évangélisation qui se manifeste par le service des autres, évangélisation relais, évangélisation de bonnes relations, de bonne réputation, évangélisation démonstrative, évangélisation expressive par la joie et le bonheur, évangélisation explicative selon la capacité, les affinités, les aptitudes que Dieu a donné à chacun. Alors je vous dirai, mes frères et sœurs, au travail, que Dieu nous bénisse et gagnons des âmes pour Jésus-Christ. On va prier quelques instants. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions pour ta bonté, ta fidélité. En toute simplicité, merci de nous avoir appelés au salut. Nous sommes sauvés, en effet, Seigneur, pour hériter le ciel, mais nous sommes sauvés pour servir notre roi dans son royaume, et tu nous as donné cette distinction d'excellence où tu veux que nous soyons des ambassadeurs. Bénis mes frères et sœurs, accorde-leur ta grâce, et ainsi, Seigneur, de compter sur toi et sur toi seul. Merci Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.